Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Les entreprises se mobilisent pour notre planète. Le 16 octobre, c'est la journée mondiale de l'alimentation et la journée nationale de lutte contre le gaspillage. Florence Flies de l'entreprise Proportion est déjà sur le terrain depuis longtemps, vous allez l'entendre. Elle accompagne les collectivités dans la chasse au gaspillage. On jette trop. 29 kilos de nourriture partent à la poubelle chaque année. Nous pourrions économiser quelque chose comme 150 euros en gaspillant moins. Alors on en parle une fois par an, mais ce n'est pas assez. Le 16 octobre, c'est la journée nationale de lutte contre le gaspillage. Bonjour Florence Flies.
Bonjour Doris.
Vous n'attendez pas, Florence, cette unique journée annuelle pour agir. Vous avez fondé Proportion en 2017. Avec quelle envie, Florence ?
Avec l'envie de permettre aux citoyens d'agir simplement en réduisant au quotidien le gaspillage alimentaire ou les déchets. C'est-à-dire qu'on a tous un pouvoir, qu'on ne se rend même pas compte, mais qui a un impact très très important au niveau planète, qui va très très loin. Et donc j'avais très très envie de mettre l'humain et de mettre le citoyen au cœur de mon projet.
Alors quel est votre parcours ? Vous êtes une écolo convaincue ?
Alors, mon projet, il est assez hétéroclite, on va dire. J'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie pharmaceutique,
ouais.
Sur Paris, sur le Cantal, l'Aveyron, ou sur Toulouse, l'Ariège, le Gers. Et puis, j'étais déjà énormément en contact avec les personnes, hein, que ce soit les médecins que je voyais ou dans les salles d'attente, où on était beaucoup sur l'écoute, sur la discussion. Mais malgré tout, un beau jour, j'avais 26 ans, j'étais avec ma petite sacoche à Paris, en bas des buts de Chaumont, mes petites chaussures,
on vous
petit
imagine.
Et j'allais voir un médecin, et là, je croise un homme qui avait... Moi, j'avais 26 ans, lui devait avoir 45 ans, en costume, plutôt propre, bien sûr lui, mais il avait un sac de couchage dans son sac à dos. Et là, j'ai eu un choc terrible, ouais. C'était l'inégalité sociale qu'il pouvait y avoir. Moi, 26 ans, tout parfait dans ma vie. Et ce monsieur qui manquait d'un lieu pour vivre, d'un métier ou de liens sociaux. Enfin bon. Donc ça m'a choquée et à partir de là, j'ai décidé que je voulais changer ma vie professionnelle pour être plus utile. Ça a mis beaucoup d'années, beaucoup de temps. Mais en tout cas, j'y suis parvenue et j'en suis ravie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma vie est un engagement politique.
Ah oui, d'accord.
Je peux le dire
pour la planète.
Pour la planète et pour nous, les humains... Également, quoi. Ouais, on ne peut pas parler de planète aujourd'hui sans humain, ça n'a pas d'intérêt.
Bien sûr, bien sûr. Alors, parce que quand vous parlez d'engagement politique, ça n'est pas une couleur politique, on est d'accord.
Non, bon. C'est vraiment ma manière de vivre et ma manière de vouloir accompagner les gens dans un changement positif pour eux et positif pour la planète.
Alors, vous avez fondé Proportion.
Oui.
Donc, c'est une association. Hein.
Oui, j'ai choisi en fait ce statut. Ça me semblait plus simple et plus proche de l'humain. On n'était pas sur un côté société avec une hiérarchie qui est descendante, avec un pouvoir descendant. Enfin, c'était un peu l'image que j'avais par rapport à l'industrie pharmaceutique dans laquelle j'avais passé 15 ans.
Est-ce que vous ne vouliez plus ?
Non, j'avais plus envie de ce système-là. J'étais plus sur une envie de participatif, de partage et de collectif.
D'accord.
Où les idées, elles viennent de plusieurs personnes et à partir de là, on construit.
Déjà l'entreprise de demain, en fait, ou d'aujourd'hui.
C'est ça, oui. Oui, oui, tout à fait. Mais on est de plus en plus nombreux, en
exactement,
fait. Hein,
exactement, exactement.
Ouais. À créer ce genre d'entreprise.
Ou des scopes, ou des entreprises éclatées, tout à fait. Mmh. Alors, aujourd'hui, Florence, donc, vous intervenez auprès de collectivités, de particuliers aussi. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Arrêtez de jeter, ne gaspillez plus.
Non, on ne prend pas le sujet de ce côté-là parce que ça n'a aucun sens et puis ça n'aidera personne. On ne stigmatise strictement aucune entreprise, aucune personne, aucune collectivité. Par contre, c'est un fait, le gaspillage, il est là. On le voit tous les jours, mais il est insidieux et des fois, on ne se rend pas compte que des petits gestes qu'on pourrait faire nous-mêmes pourraient le réduire et avoir un impact bien plus important qu'à notre propre échelle ou notre propre porte-monnaie. Donc nous, en fait, on travaille essentiellement avec des restaurations collectives. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir accompagner le plus grand nombre dans ce changement. Et ensuite, donc, d'où les collectivités, parce que si on est dans le scolaire, on est en lien avec la région pour les lycées, avec les départements pour les collèges et les mairies pour les écoles primaires. Mais également, c'est vrai qu'on travaille avec le citoyen, enfin en tout cas les personnes, les foyers, sur des événements grand public, où là, on peut leur apporter des solutions ou des envies de changer et leur donner l'envie, le plaisir et du sens et de la valeur. En fait, c'est ce que recherche tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, c'est retrouver du sens et de la valeur dans ce qu'on fait et dans notre manière de vivre. Et des fois, il suffit d'un petit déclic de quelqu'un qui va hop, montrer, dire, pour que ça émerge.
Voilà.
Et ça y est, c'est parti.
Et que ça éclaire des choses.
Voilà. Parce que je n'invente rien. Et je veux dire, il n'y a strictement rien de scientifique dans la réduction du gaspillage alimentaire. C'est que du bon sens. Mais finalement, de leur montrer, de dire, tiens, regardez, quand on fait ça, regardez tout l'impact qu'il y a derrière et tout ce que ça génère, ben, ça redonne du sens. Et là, ils adhèrent, quel que soit l'âge et quel que soit le sexe de la personne. Et c'est là où dans ce sens-là, où on a envie d'intervenir et où on intervient, que ce soit en restauration collective, que ce soit en restauration traditionnelle, c'est un peu plus difficile, mais on agit aussi, ou chez l'individu.
Parce que vous avez de beaux exemples de réussite. La restauration collective, elle est souvent montrée du doigt. Hein. On dit que dans les cantines, voilà, on est obligé de gaspiller, mais non, c'est pas vrai. Vous avez réussi quelque chose de plutôt pas mal, à Tournefeuille.
Oui, au collège de Tournefeuille, le collège Pierre Labitry. On a réussi, donc c'est un collège qui a à peu près 880 élèves, et on a réussi à réduire le gaspillage alimentaire en un an de 7,5 tonnes.
Ah oui, c'est pas rien.
Voilà, c'est-à-dire qu'à la base, il y avait 13,1 tonnes de gaspillage. Mm-hmm. C'est lorsque nous avons fait un diagnostic, on fait un diagnostic caractérisé, très poussé, avec une analyse très fine derrière pour connaître toutes les causes et tous les leviers que nous pourrions utiliser pour le réduire, ce gaspillage. Et du coup, grâce à ce diagnostic, nous avons réussi à trouver les postes où il y avait le plus de gaspillage et là où c'était le plus facile pour travailler. Mais quand on travaille avec effectivement les consommateurs et avec les professionnels, ceux qui servent derrière ou ceux qui préparent à manger. Mais on ne peut pas réussir de tels résultats comme nous avons eu une réduction de 7,5 tonnes de gaspillage, c'est-à-dire on a réduit à peu près de 57% le gaspillage total, sans une volonté réelle de l'établissement et du coup de la direction. Ce qui est un petit peu dommage malgré tout, parce que du coup on repart sur un pouvoir descendant, ça part d'en haut et ça descend vers le bas.
Il faudrait que ce soit l'inverse en fait.
Alors, pour l'instant, tant pis, c'est pas grave. Ouais. Si jamais on n'avait pas la volonté de la direction de l'établissement, on n'arriverait jamais à ce résultat-là. Parce qu'on demande des efforts et on est sur du changement. Le changement, ça fait peur à tout le monde et ça bouleverse les habitudes, ça bouleverse l'organisation. Donc, il faut qu'on ait un oui, un aval. Les élèves, les consommateurs, en tout cas, eux, ils réagissent très, très bien. Même si je n'avais pas l'aval de la direction, à partir du moment où je leur montre que ça a du sens, eux, ils adhèrent. Par contre, je ne peux pas réduire ce gaspillage si je n'ai pas les professionnels, les adultes, qui servent derrière et qui se mettent à changer leurs pratiques. Et là, c'est un peu plus difficile. Et du coup, il me faut absolument l'aval de la direction pour qu'eux disent « Ok, on est obligé de changer. » Donc, ça marche comme ça au tout départ. Mais très vite, ils se disent « Ah, mais finalement, ce n'est pas une mauvaise obligation parce que ça a du sens et ça apporte quelque chose de positif, et ne serait-ce que sur leur image, de leur propre profession. » Également, on fait très, très attention à ne pas leur rajouter du travail, mais essayer de réduire la pénibilité et de faciliter leur quotidien.
Qu'est-ce que vous avez mis en place, par exemple? Vous avez pu agir sur les entrées?
Alors, on a agi sur les entrées. En fait, il y avait des coupelles, c'est-à-dire que les consommateurs arrivaient et il y avait des coupelles pré-remplies d'entrées avec plusieurs choix. Et c'est toujours la première chose.
Voilà, et
on
va
se servir. Sans se poser des questions, tout le monde passe avec son plateau et prend une coupelle d'entrée. Mmh. Et on se retrouve à la fin, 80% des entrées sont jetées. Sauf quand c'est de l'entrée chaude, hein. Si c'est de la pizza, c'est mangé à 99%. Mais les crudités, 80% d'entre elles sont jetées.
Voilà, ils prennent, c'est-à-dire mais ils ne mangent pas.
Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question, est-ce qu'on a faim? Est-ce que ça nous plaît? Et est-ce que j'ai vraiment envie ou est-ce que j'ai vraiment l'appétit pour manger une entrée? Donc, on va d'abord travailler là-dessus. Du coup, on a arrêté les coupelles pré-remplies. On a mis des gastros, des plats, des grands plats comme autrefois, en fait. Et les élèves, on les a amenés à se servir uniquement ce dont ils avaient besoin. Alors, que ce soit au niveau de leur faim, de leur appétit, et puis surtout aussi au niveau de leur gourmandise. Je suis très gourmande et il faut que on trouve du plaisir dans ce qu'on mange.
Mmh.
Et ça, je veux surtout leur amener parce que ça fait partie de notre culture.
De
et
notre
ça fait
éducation, ouais, tout de, à fait. Tout
oui,
à fait.
Et puis oui, de, c'est un plaisir sur Terre. Il faut l'utiliser, il faut en profiter. Donc, on les a amenés à ça et en leur disant, ben voilà, aujourd'hui, il n'y a plus d'entrée en coupelle, vous allez vous servir. Avez-vous lu le menu? Qu'est-ce qu'il y a à manger? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez pris un petit déjeuner le matin? Comment vous vous sentez au niveau de votre appétit? Donc là, hop, ils se posent des questions, ils se jaugent. Et puis, en fonction de ce qu'ils voient et ce qu'ils se sont questionnés, ils vont se servir des coupelles. Soit des toutes petites, parce qu'ils ont juste envie de goûter, soit des très grosses, parce qu'ils ont faim, ou parce que le plat chaud ne les intéresse pas. N'empêche que le gaspillage a réduit de 80% au niveau des entrées.
C'est incroyable.
Voilà. On était à peu près à 18 grammes par personne de gaspillage, on est passé à 2,1 grammes.
C'est juste une question de bon sens.
C'est juste une question de bon sens et les consommateurs, on leur a montré les résultats. Hein. C'est-à-dire, je vous demande de vous questionner, mais ce n'est pas pour rien derrière. Donc tous les jours, je leur montre les résultats. Ils sont très très fiers d'arriver à ce niveau-là et de réduire le gaspillage. Et en plus de trouver de plaisir, on ne les oblige plus et ils mangent ce dont ils ont envie. Voilà. Et là, ils se disent, mais c'est génial, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt?
Vous restez avec nous, à tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Nous sommes en train de trouver des solutions pour lutter contre le gaspillage alimentaire qui est un véritable fléau à la fois en France mais également dans le monde puisqu'on jette en moyenne une trentaine de kilos de nourriture chez nous en France chaque année. C'est beaucoup trop. Florence Flize de l'association Proportion est notre invitée et Jean-Marc Fontaine vient de nous rejoindre. Vous êtes en ligne avec nous, Jean-Marc, un de nos référents.
Bonjour Doris.
Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Jean-Marc.
Jean-Marc, le gaspillage alimentaire, bien évidemment, on n'y est pas insensible.
Bien sûr, bien sûr. Bonjour Florence.
Bonjour.
Alors, c'est vrai que les données chiffrées que vous avez évoquées, ça donne le vertige. Hein. Finalement, le gaspillage alimentaire, c'est l'un des grands scandales de notre société de consommation. Et on trouvera peu de gens qui ne soient pas d'accord là-dessus. Et pourtant, ça se produit. Alors, l'expérience que vous avez vous permet d'expliquer ce phénomène. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi finalement les gens sont d'accord pour dire qu'il ne faut pas gaspiller et malgré tout ils gaspillent?
Parce qu'on est dans une société de consommation et qui est aussi basée sur une économie où il faut acheter et jeter le plus possible pour faire tourner cette économie mondiale. Mais aussi également c'est que le gaspillage en fait c'est le moi et c'est très, très sensible. Les personnes voient le gaspillage chez les autres, mais ne veulent pas le voir chez eux parce qu'ils ne veulent pas l'admettre. C'est très, très compliqué. Donc, les personnes disent systématiquement « Ah oui, mais moi, je gaspille pas » et puis ils me donnent des exemples de ce qu'ils font. Et qui font d'ailleurs très très bien, ils mentent pas. Hein. Mais sur d'autres côtés, évidemment, il y a du gaspillage parce qu'on est entre 25 et 30 kilos de gaspillage par personne par an.
Mmh.
Et c'est là où c'est compliqué, c'est que en fait, il faut amener cette problématique, mais sans culpabiliser la personne et lui amener juste des solutions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais partir de la solution pour leur dire, ben voilà, l'idéal, si on pouvait faire ça, donc faire une liste de courses, comme quoi c'est vraiment très bête, hein, de réduire le gaspillage alimentaire, c'est pas grand-chose. Hein. Tout le monde est capable de le faire, mais c'est des réflexes que nous avons oubliés. Et là, même si il ne le fait pas, je lui fais penser et du coup il se dit oui effectivement c'est vrai que je pars souvent faire mes courses et je fais pas de liste et que je me retrouve à la maison avec deux pots de crème fraîche donc et ça m'arrive parce que je donne des exemples concrets derrière et ça m'arrive effectivement de jeter un pot de crème fraîche parce que je l'ai oublié. Donc voilà.
Ce qui veut dire que finalement la lutte contre le gaspillage va de pair avec une autre manière de consommer.
Complètement.
Ce travail-là, vous l'accomplissez aussi sur sortir un peu de cette consommation à outrance à laquelle le système nous pousse inévitablement.
Oui, et puis surtout remettre de la valeur dans ce que nous achetons et pourquoi nous l'achetons. Quand on est à la maison, effectivement, je veux dire, il faut que quand on va, lorsqu'on va faire ses courses, on va acheter, mais pourquoi on achète tous ces aliments, que ce soit cette viande, ce poisson, ces laitages? Préparons à l'avance nos menus et sachant ce qu'on va préparer et qu'est-ce qu'on a envie de manger et trouver du plaisir et à combien on va être à table autour pour partager, j'en sais rien, un pot-au-feu ou une lasagne. Donc c'est important de se poser des questions et non pas d'être dans un achat, pas compulsif, mais un achat non réfléchi, par habitude, parce qu'on doit, on achète pour se nourrir. Il faut arrêter, on n'est pas là que pour se nourrir, on est là pour prendre du plaisir et on est là pour réfléchir à ce qu'on va manger et pourquoi on va le manger. Et en restauration collective, ce qui m'intéresse aussi énormément, c'est que lorsqu'on réduit le gaspillage alimentaire, on fait des économies énormes. Hein, je veux dire, au collège, ça tourne au-dessus des 20 000 euros par an, hein, d'économies sur le gaspillage alimentaire. Alors évidemment, il est hors de question de réduire cette enveloppe sur la restauration. Par contre, il faut la réinvestir. Il faut la réinvestir dans de la qualité. Du coup, les professionnels qui vont préparer à manger vont y trouver plus de plaisir et plus de sens à ce qu'ils vont préparer pour les gamins. Et également, on peut aussi investir dans du matériel pour faciliter la préparation ou investir aussi dans de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que arrêtons d'acheter des fruits et des légumes qui sont déjà emballés, pré-coupés, ils n'ont pas de goût. Et après, on le voit, c'est des produits qui sont généralement gaspillés. Et remettons en place une légumerie où on achète des fruits et des légumes frais et qu'on va peler. Ça demande la main-d'œuvre. Du coup, on a fait des économies de 20 000 euros. Franchement, avec cet argent-là, on peut payer une personne qui va venir travailler sur un mi-temps, enfin organisé.
On est dans l'économie circulaire. Hein.
Complètement. Et également, on réduit le volume des déchets et la réduction de la gestion des déchets, ça fait d'autres économies bien plus importantes et là qui sont réelles. C'est-à-dire que l'établissement ne dépensera plus cette somme d'argent pour la gestion des déchets puisqu'elle l'aura réduite. Alors que moi, au niveau de la réduction du gaspillage alimentaire, cette réduction, elle sera réinvestie. Mais dans quelque chose de positif, en tout cas.
Jean-Marc.
Alors, vous avez mentionné que vous travailliez avec les collectivités, les restaurants. Nous avons évoqué le type de consommation, la grande distribution, elle a sa responsabilité aussi dans le gaspillage. Je pense par exemple à l'emprise des dates de péremption. Est-ce que vous avez commencé à mener des projets avec la grande distribution aussi pour limiter ce gaspillage?
Non, je n'ai pas commencé à travailler avec la grande distribution, mais en travaillant déjà avec les citoyens et les foyers, notamment sur les dates de péremption, il faut qu'ils apprennent à faire la différence entre une DLC et une DDM. La DLC, voilà, c'est la date limite de consommation, c'est-à-dire qu'au-delà de cette date, il ne faut pas consommer le produit. Ça concerne le produit, la viande, ouais, le poisson et les laitages. Sachant que dans les laitages, un yaourt peut être mangé 3 semaines après cette date de péremption, si jamais il a été conservé dans de bonnes conditions. Alors que la viande, on est d'accord, 3 semaines après, c'est sûr, elle n'est pas bonne. Donc, et les DDM, date de durabilité minimale, c'est une date où, en fait, l'industrie agroalimentaire dit « moi, j'assure le croquant, j'assure mon produit avec toute sa richesse en sels minéraux ou en vitamines jusqu'à cette date, mais mon produit n'est pas dangereux, peut être mangé au-delà de cette date pendant plusieurs mois. » Le problème est que les gens ne connaissent pas la différence entre ces deux dates. Et en fait, ils ont une peur, c'est tout le
monde.
Ah, mais vraiment, ils n'arrivent pas à se raisonner. Ils ont peur avec, à partir du moment où il y a une date, bah, elle est dépassée, on jette. Le riz ou les pâtes, si la date ne rend pas le produit impropre et dangereux pour le consommer. Donc, on apprend comme ça. Maintenant, ça, c'est les lobbies de l'agroalimentaire qui veulent mettre absolument ces dates parce que ça rentre dans le schéma économique de consommation et de jeter. Si on prend par exemple une chaîne de yaourts, les mêmes yaourts qui sortent de la même chaîne, s'ils sont en métropole ou qui partent dans nos dom-toms, n'auront pas la même date de péremption.
Mais il s'agira des mêmes yaourts.
Il s'agira exactement des mêmes yaourts. Mmh. Donc on voit bien qu'il y a là-dessus un mensonge délibéré pour pouvoir pousser à la consommation et pousser au fait de jeter pour faire marcher l'économie.
Est-ce que la loi Garot, justement, va pouvoir changer peut-être un petit peu les choses pour la grande distribution, hein? La loi Garot, c'est cette loi-là qui a été votée en 2016, hein, pour lutter contre le gaspillage, et avec des intentions qui doivent arriver pour 2025.
Alors évidemment que la loi Garot va modifier et va améliorer ces situations de gaspillage
à grande échelle.
À grande échelle. Mmh. Alors dans la grande distribution, déjà, il y a un grand pas qui a été fait. Il y a quelques années, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, les aliments, les denrées où la date était dépassée, elles étaient détruites. On mettait de l'eau de Javel dedans pour éviter que quelqu'un les utilise. Maintenant, c'est terminé, c'est interdit, non plus le droit de le faire. Ce qui veut dire que des gens qui sont dans la nécessité, ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des gens qui vont faire des poubelles parce qu'il y a des produits qui sont très très bons et, pour se servir, des magrets de canard par exemple. Je veux dire, la date elle est dépassée, mais on peut le récupérer le jour même et on peut le manger et on n'aura pas de soucis pour notre propre santé. Donc des gens récupèrent cette nourriture et là déjà c'est un grand... C'est un effort très important où on ne détruit plus de la nourriture qui est consommable.
Complètement. Mmh.
Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ils mettent en place dans la grande distribution où quelques jours avant la date de péremption, ils baissent le prix. C'est aussi un effort et il faut le reconnaître.
Certains jouent le jeu, effectivement.
La plupart maintenant, de plus en plus.
Il faut le dire.
Et voilà, et maintenant, c'est au consommateur d'agir et d'aller vers ces produits-là. Mm-hmm. On peut acheter une viande et après, c'est ce qui compte, c'est la conservation. Si la viande, elle va être périmée le lendemain et qu'on n'est pas sûr de la manger le jour même, eh bien, on a la chance aujourd'hui d'avoir tous des congélateurs. Donc, ce produit, on va le congeler et on peut le maintenir et le garder pendant plusieurs mois. Donc, la date de péremption, elle n'existe plus à partir du moment où on est au congélateur.
Oui, elle est congelée, tout à fait.
Donc ça, c'est important à dire. Je voulais dire, juste pour la DDM, j'ai oublié de rappeler, tous les produits secs, toutes les boîtes de conserve et tous les produits que nous achetons congelés ont des dates de durabilité minimale. C'est-à-dire qu'au-delà de cette date, on peut consommer. Je pense aux steaks hachés congelés que nous achetons en grande distribution. La date, on peut le manger plusieurs mois après. Ce n'est pas considéré comme de la viande fraîche. Mmh. Voilà, ça c'est important parce que c'est là où on voit énormément de gaspillage.
Jean-Marc, une autre question, peut-être on pourrait parler aussi de la journée du 16 octobre. Hein, on va y revenir dans un instant avec Florence sur tout ce que vous organisez, place du Capitole à Toulouse, par exemple. Jean-Marc ?
Oui, la crise sanitaire que nous vivons a malheureusement pour conséquence un appauvrissement de beaucoup de nos concitoyens. Pensez-vous que cette situation peut être propice à une prise de conscience plus grande ampleur sur le fait que l'abondance n'est plus acquise et que un peu plus de frugalité et de partage sont indispensables.
Alors oui, moi je pense qu'il faut remettre cela au centre de la table et la frugalité, enfin le partage, la frugalité, pas forcément, mais en tout cas, il faut arrêter de vouloir être dans l'abondance systématique pour jeter derrière. Malheureusement, on voit des foyers avec peu de moyens. Et ça fait partie de leur plaisir, cette abondance et cet achat où ils ont des caddies qui débordent. Mmh. Et malheureusement, c'est ça, c'est qu'ils trouvent leur plaisir là-dedans, dans l'achat. Et là, c'est là où il faut travailler avec eux en disant non, en fait, le plaisir, vous devez le retrouver au niveau gustatif. Acheter des bons légumes, acheter peut-être moins de viande, mais trouver de la bonne viande lorsque vous allez préparer vos plats traditionnels. Ou arrêter d'acheter tous ces gâteaux industriels pour les goûter de vos enfants ou des compotes. Je veux dire, lorsque vous achetez des fruits, même si elle est un petit peu tachée, prenez ce fruit-là et cuisez-le en compote ou mixez-le. Enfin, faites un smoothie, faites quelque chose. Mais en tout cas, voilà. Donc, en gros, c'est de l'éducation, c'est de l'accompagnement et c'est leur ramener du plaisir et du sens. Parce que ces gens-là, malheureusement, sont dans le besoin et sont dans l'achat compulsif parce que ça fait partie de leur plaisir et il faut essayer de modifier ce plaisir et le déplacer.
On va faire le lien justement avec ce que vous proposez le 16 octobre, donc sur cette journée nationale de lutte contre le gaspillage. Vous serez, si vous êtes sur Toulouse, vous serez à Place du Capitole où vous allez proposer des ateliers anti-gaspi, des solutions, voilà, pour cuisiner autrement.
Alors, on sera juste derrière à la Place du Capitole.
Voilà.
C'est au Square Charles de Gaulle.
D'accord.
Donc, au donjon. Et du coup, c'est la journée mondiale de l'alimentation. et Journée nationale du gaspillage alimentaire. Et là, on va donner du sens et du concret sur comment réduire le gaspillage à la maison avec des ateliers, avec des ateliers confiture, des ateliers pickles, des ateliers de lactofermentation. Qu'est-ce que c'est? Comment on le fait? Et puis une disco soupe où on va prendre des légumes pour faire une soupe avec des légumes qui allaient être jetés de la grande distribution, et des fruits aussi pour faire des smoothies, pareil, des fruits qui allaient être jetés et pourtant qu'on peut consommer et on peut se régaler avec.
Merci beaucoup Florence de l'association Proportion, on vous retrouve facilement sur internet. Merci à vous Jean-Marc Fontaine.
Merci.
Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radioprésence.com.